Alors, comme j'ai la chance, l'honneur, la responsabilité aussi et la joie de commencer le tour du cercle, de notre cercle de sages fous et sages femmes de Yem, ici à Néant-sur-Creuse, que je découvre pour l'occasion. Merci à Armelle et Pépo qui s'y sont installés et qui nous accueillent, qui s'y sont installés après de nombreuses années de bourlingue. Eh bien, je continue à remercier Armelle et Pépo de leur accueil, du temps, de l'énergie que vous avez passé pour permettre notre première rencontre en vrai. Et puis du temps et de l'énergie que vous allez encore passer durant les prochains jours pour assurer la meilleure circulation de paroles aussi nourricière que possible tout autour de notre cercle Yéman. Et je remercie aussi toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu consacrer du temps, de l'énergie à faire partie de ce cercle, à être présente et présent aujourd'hui. En vrai, pour qu'on puisse se voir, s'entendre, et puis celles et ceux qui nous rejoindront au fil de ces jours, à distance, ne pouvant pas nous rejoindre. Merci donc. Et je continue à commencer par un propos liminaire sur notre activité de narration orale. La définition que je me suis faite de notre activité au fil de ces années est la suivante. Donner la matière sonore, et chaque mot a été bien pesé, hein. Donner la matière sonore nécessaire et suffisante pour que notre auditoire puisse se forger les images contenues à l'intérieur de la narration, à l'intérieur de l'histoire. Car les images sont importantes car, pour reprendre une parole d'Einstein, l'imagination, la capacité à se produire des images, l'imagination est plus puissante que la connaissance. Car il est prouvé qu'aujourd'hui, que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre un événement qui arrive réellement et un événement que nous avons imaginé avec autant de précision que s'il se passait vraiment. Et ces images que nous donnons à l'intérieur de nos narrations, nous espérons que, et nous faisons en sorte que notre auditoire y croit suffisamment le temps de notre narration pour qu'elle puisse être véritablement nourricière pour la vie de chacun. Et parce que croire, c'est déjà pouvoir aussi. D'où l'importance qu'il y ait ces formulettes d'introduction et de fermeture dans nos narrations, pour qu'on sache quand on entre et quand on sort de ce mensonge vrai. Sinon, on tombe dans la manipulation. Et nous sommes, à mon sens, au cœur de la capacité unique de notre forme particulière d'être vivant, de notre humanité, et cette compétence d'imaginer, cette compétence de croire en ces images-là. Et c'est une véritable compétence, car nous en avons pas simplement envie, je pense que nous en avons toutes et tous besoin, parce que nous en sommes toutes et tous capables, et que nous avons besoin d'activer cette capacité, comme nous avons besoin que le cœur fonctionne pour rester vivant, incarné. Croire, c'est déjà pouvoir et nous en avons besoin. Croire, il y a bien sûr toutes les croyances religieuses, mais toutes les autres formes de croyances aussi, croire en l'amour, croire que la musique adoucit les mœurs, croire que seul on va vite, qu'ensemble on va loin, croire en demain meilleur, croire que la lumière est au bout du tunnel, croire qu'on peut s'en sortir, croire en soi, parfois trop, parfois pas assez. Et nous avons besoin de croire et de faire croire aussi avec ces narrations. On constate aujourd'hui, encore plus qu'hier, l'importance du récit, l'importance du narratif, l'importance des histoires, des stories, ne serait-ce que par les réseaux sociaux, mais aussi pour tous les discours politiques. On nous raconte des histoires, les géopolitiques, géostratégies, ou l'importance pour une nation en guerre de faire adhérer à son récit. Et peu importe si c'est du fake, du fait qu'on peut sur lequel on peut s'accorder, l'important c'est qu'on croit dans l'histoire, comme en marketing, qu'on croit dans les vertus du produit ou du service qu'on essaye de nous vendre. Ceci donc pour commencer, pour continuer à commencer sur l'importance, sur le fait que je pense que nous sommes, avec notre activité, de développer et d'expérimenter les différentes formes de narration orale, il me semble qu'on est au cœur de la compétence de l'Homo sapiens. Pour continuer à commencer, je vais essayer d'être le plus synthétique et le plus concis sur la manière dont sur le parcours que j'ai suivi pour arriver jusqu'ici, à Néant-sur-Creuse. Le premier souvenir que j'ai de moi en situation de prise de parole en public remonte à l'âge de 4-5 ans en maternelle. Nous avions un spectacle de fin d'année à réaliser. Le thème était le cirque et mon spectacle à moi était légèrement différent de celui des autres car il consistait à présenter les spectacles des autres. J'étais donc Monsieur Loyal et j'étais le seul à être seul dans mon spectacle. Et cette particularité, je l'ai poursuivie en école primaire, car j'étais celui qui faisait quasiment toutes les lectures à haute voix dans toutes les classes que j'ai traversées, y prenant un grand plaisir. Tout le monde y prenait un grand plaisir, mais mes camarades de classe en premier aussi, parce qu'ils savaient que pendant ce temps-là, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'à écouter, qu'à imaginer, je pense. Et si pendant la semaine je faisais les lectures à haute voix à l'école de la République, le dimanche je faisais les lectures à haute voix à l'église Saint-Trictrude de Ronchin, à côté de Lille, aux messes de 9h et 11h. Et c'est là où je me rappelle avoir rencontré le demi-silence, qui n'est pas le silence après la virgule, qui n'est pas le même que le silence après le point, bien sûr. Et chaque semaine, je me faisais effort de rendre ces lectures les plus nourricières pour cette communauté qui avait rendez-vous. Là, à ce moment-là, que le rendez-vous soit nourricier et que les paroles dites, que je ne choisissais pas, ça m'était imposé, puissent accompagner le mieux possible chacune et chacun pendant la semaine. Et puis quand je me suis rendu compte que la religion pouvait servir à ne pas religuérer, à ne pas relier, mais pouvait être source et aux causes de guerre, d'opposition, de destruction, de mise en esclavage, de conquête par la force, d'asservissement, et donc être outil de pouvoir, parce que, comme je disais tout à l'heure, croire, c'est déjà pouvoir, et il y a toutes les manipulations possibles à partir de ça. Eh bien, plutôt que d'aller à l'église le dimanche, je suis allé à l'atelier théâtre. J'ai commencé en cinquième avec mon prof de français, Jean-Pierre Croquet. Et je l'ai continué pendant longtemps, travaillant des répertoires divers, les classiques, Shakespeare, Racine, Musset, Brecht, Tchekhov, jusqu'à Augusto Boal et le théâtre de l'opprimé, travaillant le clown aussi. Et puis arrive le moment où... ah non, il y a aussi une chose importante, c'est que pendant ces années-là, je me suis aussi beaucoup intéressé à la mythologie et je passais mes mercredis après-midi et samedis après-midi à la médiathèque de Ronchamp pour essayer de comprendre ce qu'il y avait de fake, ce qui était de l'ordre du fake, ce qui était de l'ordre du fait à l'intérieur des mythes. Qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui était faux ou qu'est-ce qui procédait de la création littéraire? Je ne pouvais pas concevoir, oui, j'avais passé des années à lire la Bible et j'en suis remonté aux mythes populaires, accessible à tout le monde, pour essayer de comprendre de quelle matière, de quelle nature ils étaient composés, ils étaient faits. C'est là, à la médiathèque de Ronchin, où j'ai rencontré Ovide, Virgile, et puis les anciens, les philosophes, les Platons et autres. Je ne vais pas faire l'inventaire de tout le monde, hein. Juste peut-être mentionner Borges, qui m'a beaucoup marqué aussi, et dont les influences notables, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir avec tout le reste, c'est celle aussi de Claude Nougaro ou de Brel, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté et lu aussi. Et donc arrive le moment où dans ma vie, il faut travailler. Et préoccupé d'être utile, comme j'essayais de l'être jusqu'alors, j'ai eu la chance de pouvoir créer un organisme de formation pour diminuer les accidents de travail dans les industries. Ce qui m'intéressait, c'est d'être dans le réel, d'être au cœur du réel, au cœur de la vie des gens, là où la plupart des gens vivent au travail. Et d'essayer de faire en sorte que ce travail ne tue pas, ou on ne se blesse pas, on ne perde pas de main, ou l'audition, ou de bras, ou de jambes, ou la tête au travail. Et donc, j'ai eu la chance de monter cet organisme de formation qui existe toujours aujourd'hui et qui participe toujours très activement et avec un certain succès à la diminution des taux de fréquence, taux de gravité, taux d'accident de travail, comme on les appelle, dans différentes entreprises. Et si j'avais été celui qui avait permis sa création, je n'étais pas celui qui était destiné à la diriger. Et au bout de 5 ans, j'ai eu la chance de bien vendre mes parts. Et je me suis retrouvé à 25-27 ans avec et du temps et de l'argent. Et j'ai eu la chance à ce moment-là qu'un ami m'amène écouter un conteur à Paris dans le Marais un dimanche après-midi. Et au cours de cette racontée, ce conteur de la place Jemaa el Fna de Marrakech, qui était de passage, ce conteur a raconté une histoire. Mais en fait, il n'a pas raconté une histoire. Il a raconté mon histoire. Il était en train de raconter mon histoire, là, comme ça, devant tout le monde. Je me sentais intimement concerné, visé, mis à nu. Et je me sentant tellement à poil au milieu de tout le monde, là, je me suis retourné, j'ai regardé autour de moi pour vérifier que personne ne me regardait, dans un geste de pudeur. Et force m'a été de constater qu'évidemment personne ne me regardait, mais tout le monde le regardait lui avec grande attention, se disant comment fait-il pour raconter mieux que je ne saurais jamais le faire ma propre intimité. Oh, et là j'ai trouvé ça fort, vraiment. Et là j'ai trouvé la réponse à la question que je me posais depuis de nombreuses années, et j'ai décidé. Ce jour-là, à ce moment-là, que j'allais consacrer mon temps et mon argent à travailler sur la narration orale. Et je me suis organisé plusieurs stages avec différents conteurs, conteuses, il y en a eu beaucoup, Et j'en citerai quelques-uns après. Mais je suis allé aussi en Afrique, plusieurs, nombreuses reprises, en Afrique de l'Ouest, dans des villages sans eau, sans électricité, où il n'y avait que la parole pour se relier. Des veillées, passer des veillées de compte au pied de l'arbre à palabres, au milieu des champs, dans la brousse, mais aussi dans les capitales, avec les griots, les griots royaux aussi, qui déclament les généalogies et font les cérémonies officielles. Et puis, pour organiser un voyage, et en parallèle, je travaillais sur les contes, lisant beaucoup, apprenant beaucoup, découvrant beaucoup. Et puis, un jour, je me rends à Ghana, à côté de Clermont-Ferrand, à côté de Clermont-Ferrand, au Ghana, il y a le Festival interculturel des traditions du monde. Et nous avons le même âge avec le festival. Il a été créé en 1973. Et cette année-là, je m'y rends, on est en 2001, je crois, 2000-2001, et je m'y rends pour rencontrer un Touareg qui devait me communiquer les coordonnées d'un autre Touareg pour que celui-ci m'accueille au Niger lors d'un de mes tout prochains voyages d'études sur place. Et puis, sur place, donc, à Ghana, à ce festival-là, je constate qu'il y avait, au milieu du marché artisanal, au milieu des tentes dans lesquelles il y avait les spectacles, il y avait un espace rencontre. Et les quelques jours que j'y ai passés, je n'y ai jamais vu quelqu'un, qui que ce soit, se rencontrer là. Le lieu portait bien mal son nom. Et donc je suis allé voir, j'ai eu l'audace d'aller voir la directrice adjointe et de lui proposer d'y organiser un moment compté. Ça m'allait très bien parce que je ne connaissais personne, personne ne me connaissait. Et je pouvais être librement moi-même et librement pousser au maximum tous les potards et voir ce que ça donnait. C'était la première fois. Et pour cette première fois-là, alors ça a duré 1 heure et demie et en fait ça n'a pas duré 1 heure et demie pour moi, ça a duré 3 heures. C'est-à-dire que j'ai raconté pendant 1 heure et demie et j'ai été dans un tel état d'extase, de transe ou d'état altéré de conscience que j'ai complètement perdu conscience et connaissance avec le temps qui passe. Complètement décollé. Je n'ai pas déconné, mais j'ai complètement décollé. Et j'ai réatterri 1 heure et demie après avoir fini. Donc, j'avais doublé. Le temps avait doublé. Des états que tout à chacun, certainement vous aussi, avez eu l'occasion d'expérimenter et continuer à le faire. Et puis j'ai eu la chance, la semaine qui a suivi, de rencontrer Bruno de la Salle et Henri Gougaud lors d'un festival de contes. Ils étaient tous les deux au plateau pour une conférence sur l'art de la littérature orale. Et après leur conférence, il y a eu les questions au public. Et tout à la fin des questions au public, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai eu l'audace de leur raconter la petite histoire que je viens de vous raconter. On double le temps qui passe, en tout cas la perception qu'on en a. Et de leur poser cette question faussement naïve et délicate. Aussi, je voulais avoir leur avis sur. Je leur ai demandé, messieurs, qu'est-ce que le temps? Avec toute votre expérience, dites-moi, si vous voulez bien, qu'est-ce que le temps, alors? Et Henri a eu cette réponse-là, et j'espère que mes remerciements, et la vibration de mes remerciements arrive là où il est aujourd'hui. Il a eu cette réponse très laconique mais nourricière. Et il m'a dit, le temps, c'est toi. Et puis, Bruno a cherché à m'expliquer tous les tenants et aboutissants, tous les constituants qu'on pouvait mettre à l'intérieur du temps. Et j'ai trouvé sa démarche, c'était pas la démarche de quelqu'un qui prétendait savoir, mais c'était celle d'un chercheur. Et j'ai trouvé cette démarche-là particulièrement intéressante et j'étais arrivé à ce moment-là de mon parcours comme un apprenti compagnon d'entrer en compagnonnage. Et nous avons eu la chance, Bruno et moi, qu'à ce moment-là, le ministère de la Culture débloque une enveloppe budgétaire pour financer des compagnonnages, 18 compagnonnages dans des pratiques artistiques différentes, la danse, la musique. Et nous avons été le binôme pour la littérature orale qui a été financée à ce moment-là. Et donc j'ai pu passer 2 ans d'études en compagnie de Bruno sur l'un des plus anciens textes dont on dispose, la Vetala Panchavimsatika en sanskrit, donc d'origine indienne, les 25 contes du Vetala, un récit cadre avec 24 récits et énigmes à l'intérieur. Date de composition a priori 350-355 après Jésus-Christ, donc antérieure aux mille et une nuits. Et j'en ai rendu compte, j'ai rendu compte de mon travail comme un apprenti compagnon avec un chef-d'œuvre tel qu'il est convenu de l'appeler, lors d'un spectacle de 4 h 30 où j'ai adapté 12 des 24 histoires, un spectacle que j'ai pu jouer 3 fois. Et puis, j'ai eu la chance de collaborer avec Aimé de la Salle pour une adaptation de Caïdara, le récit initiatique Peul transmis par Amadou Ampateba, et de rencontrer à cette occasion-là Basile Désiré Djédjé, le fils adoptif d'Amadou Ampateba. En effet, Amadou Ampateba a adopté Basile à l'âge de 9 ans. Et il doit avoir, il est proche de 70 ans aujourd'hui, je pense. Et Basile est surnommé dans les milieux initiés, africains et diplomatiques également, la valise. Parce que le vieux s'est toujours baladé avec et il a tout mis à l'intérieur. Et suite à notre rencontre, Basile est venu sur l'île, il a emménagé sur l'île où il est toujours aujourd'hui, et nous avons passé 14 années ensemble en proximité. Et donc c'était une rencontre, plus qu'une rencontre, c'était une autre forme de compagnonnage aussi. Et puis j'ai eu la chance de diriger, enfin en tout cas de m'occuper de répondre aux demandes du musée du Quai Branly pour toute sa programmation conte pendant 5 ans sur le plateau des collections temporaires, sur le plateau des collections permanentes et aussi temporaires pour les spectacles aussi, le travail avec les musiciens et puis l'équipe de 15 conteurs, conteuses qui étaient réunis à ce moment-là. Et puis donc la chance de rencontrer Marc Cerdan, l'actuel secrétaire général de la Fondation des Alliances Françaises, qui m'a fait confiance pour leur anniversaire à l'UNESCO tout à fait récemment, au cours duquel j'ai eu la chance de créer YEM, donc. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous raconter avec Ghana aussi, avec ce Festival interculturel des traditions du monde, et qui est fondateur dans mon parcours, c'est que l'année qui a suivi, ce que je vous ai raconté tout à l'heure, l'année suivante, l'édition suivante, dans l'édition suivante, il y avait de programmer un rituel mapuche. Et je savais que, pour connaître les gens, là-bas, qu'il n'y allait pas avoir de voyeurisme. Ce n'est pas une opération marketing ou un festival chamanique comme on en a beaucoup aujourd'hui, et que ça allait être réalisé dans des conditions les plus proches possibles de l'origine. Les Mapuche sont originaires du sud de la Colombie et du nord de l'Argentine. Ils sont entre les deux. Et je m'y suis donc rendu. Et la chamane était là avec son mari, son assistante et d'autres assistants. Et après avoir creusé le trou dans la terre, fait les libations, les offrandes, les incantations, chacune des participantes a pu déposer dans la terre ses demandes, ses prières, les circonvolutions au tambour autour du trou. Le totem a été replacé, enfin a été dressé dans le trou. avec les branches qui avaient été coupées de l'arbre, qui ont été attachées au sommet du totem à 7 degrés. Et durant tout le rituel, moi, j'étais là en me disant, bon, quand est-ce que ça commence? Et le rituel officiel se termine, le totem est protégé, la chamane et son mari sont un petit peu à l'extérieur et vient l'heure des doléances personnelles. Et chacun se présente à la chamane. Moi, je suis resté un peu à l'extérieur. Et puis, vers la toute fin, il n'y avait quasiment plus personne. Une jeune femme, une adolescente, 13-14 ans, passe devant moi avec sur la peau tout un tas de boutons, de pustules, de cratères, et un regard vide, noir, sans aucune expression, et je la vois passer comme une sorte de morte vivante, en fait. Suivie par sa mère, et là je me dis, ouf, ça commence. Rallumer une étincelle d'envie, de désir, de présence à l'intérieur de ce corps déjà mort, ouf, ça c'est balèze. Et puis je vois un peu à l'extérieur encore deux jeunes enfants, 7-9 ans, un garçon et une fille, comme deux oisillons tout mouillés, tout trempés, tout serrés l'un contre l'autre, posés sur une branche trop fragile pour eux, très inquiets et tout seuls. Et je prends conscience que c'est le frère et la sœur, à n'en pas douter. Et je ne peux pas rester là, extérieur à cette situation-là. Alors, je m'approche d'eux et je tourne le dos à la chamane. Et très délicatement, mais avec conviction, je cherche les paroles qu'il convient de leur donner à ce moment-là. Quelle histoire leur raconter? Pour participer à ce que la chamane était en train de faire derrière, il fallait s'occuper de la cellule familiale, de la périphérie. Il fallait nettoyer autour du trou et nettoyer les mauvaises herbes et permettre à l'environnement d'essayer de se guérir aussi, de retrouver son gai rire. Oui. Et là, je leur ai dit, donc, il y a des gens qui sont pas doués pour le bonheur. Hein. Ça arrive. Votre sœur n'est pas douée pour le bonheur. Ça arrive et c'est arrivé. Et vous voulez l'aider. C'est bien naturel. Alors, montrez-lui comment il faut faire pour être heureux. Il y a un proverbe africain qui dit « La vérité rougit les yeux, mais ne les crève pas. » Et ces paroles de vérité que je leur ai données leur a effectivement rougi les yeux et ils ont pleuré tout ce qu'ils ont pu. Je les ai pris dans mes bras parce qu'ils avaient l'obligation, ils n'avaient pas la permission, ils avaient le devoir d'être heureux dans leur vie pour montrer l'exemple, ouvrir la voie à leur sœur. C'était devenu nécessaire. Et puis, la chose s'est terminée, j'ai vu la mère et sa fille repasser à côté, repartir avec les enfants, la chamane et son mari partir aussi, il n'y a pas eu d'autres échanges, c'est très bien comme ça. Et puis moi, je suis resté là, voyant la chamane et son mari s'éloigner. Comme deux petites boules, ils étaient tout ronds tous les deux dans leur costume traditionnel. Et là, je me suis dit, quand même, c'est pas un boulot hein, d'être chaman. Tu choisis pas. Tu passes ton temps, ta vie à nettoyer les souffrances des membres de ta communauté. T'as pas envie. Au début, t'as pas envie, forcément. Hein. Et puis, être mari de chaman. C'est quelque chose aussi, ça, te marier à une femme qui ne s'appartient même pas à elle-même. Quelle dose d'amour il faut, quand même, quel don de soi. C'est remarquable. Et puis je reviens dans mon questionnement intérieur, in petto, Je reviens à la chamane, enfin à l'être chamane, en me disant, en me demandant, mais alors, qu'est-ce qu'être chamane? Et à ce moment-là, au moment exact, où je me suis posé cette question-là, la chamane a disparu derrière un arbre et je n'ai fait que voir un homme, le mari, marcher à côté d'un arbre. Ça a duré un tiers de quart de seconde. Et puis le tiers de quart de seconde suivant, ma raison a pris le dessus et m'a bien fait comprendre que c'était un effet d'optique, bien sûr. Oui, mais il y avait eu ce premier tiers de quart de seconde pendant lequel j'ai cru. Et j'en reviens à mon propos liminaire sur l'image et la croyance. J'ai cru qu'elle s'était transformée, qu'elle était devenue arbre. Mais j'avais ma réponse sur ce qu'être chaman. La reliance à toutes les formes de manifestation du vivant, la reliance à la nature, notre singularité d'être humain, mais notre dépendance et nos interdépendances, et les liens que nous avons. Que toutes les formes manifestées du vivant ont entre elles. Et lors de ce premier tiers de quart de seconde, ouf, j'ai des cases dans mon cerveau qui se sont allumées et ça m'a fait un bien fou de croire en cela. Ce qui fait que lors du troisième tiers de quart de seconde, j'ai décidé, en mon âme et conscience, et en toute liberté, de croire. Effectivement. Et comme je le disais tout à l'heure pour d'autres, je le dis pour moi-même là, la vérité rougit les yeux mais ne les crève pas. Et j'ai tellement chialé que je me suis retrouvé à quatre pattes au sol, et rampant jusqu'à un banc juste à côté, histoire d'essayer de me tenir un peu droit quand même. Et c'était un peu comme si il y avait les vannes d'un énorme barrage. Qui s'était ouverte juste l'espace d'un instant, puis refermée très très vite, et puis après, les vannes grandes ouvertes, on ne maîtrise plus rien. Je ne maîtrisais absolument plus rien du tout. Et c'était un déferlement d'émotions, de sensations, d'images, d'une puissance d'aucuns diraient, j'ai vu toutes mes vies antérieures, et toutes les relations, les reliances possibles avec toutes les formes de manifestation du vivant. Mais j'ai rien pu faire, ni rien décidé d'autre, simplement décidé d'accepter au début. Et de trouver les passerelles pour communiquer aussi avec notamment les arbres. Et puis en termes d'image, tout à la fin de ce déferlement, je ne sais pas, 5 DVD d'infos, d'images à la seconde qui se sont passées, et desquelles j'ai retenu très peu de choses en fait. On ne retient pas, là, on est dans un état d'altéré de conscience, encore une fois, c'est indéfinissable. Et au terme de ce déferlement, oui, il y a un grand apaisement, une grande quiétude, un grand bien-être, mais tous ces mots-là sont trop faibles encore pour pouvoir bien en parler. Le seul terme qui vient, c'est l'amour, et c'est la conscience de la force d'amour, mais d'une force, d'une puissance. Absolument incroyable. On est même au-delà de la puissance. Et au terme, la dernière image que j'ai pu avoir, à ce moment-là, c'est celle de trois entités, d'une trinité, de trois formes, très distinctes, mais indescriptibles. Enfin, je tente de le faire dans l'un des récits iémans que j'ai composé. Et d'aucuns les appelleraient probablement Vishnu, Brahma, et Shiva, ou bien le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou bien la triple déesse, ou bien les trois têtes du Cerbère, car de toutes les façons, pour moi à ce moment-là, et encore aujourd'hui, gardien de la frontière. Mais ce n'est pas la frontière qui sépare deux pays, c'est de gardien de l'espace-temps qui sépare le manifesté du non-manifesté, qui sépare le non-manifesté du manifesté, dans les deux sens. Et c'est cette conscience de cette force, de cette puissance d'amour et de reliance entre toutes les formes manifestées du vivant qui m'anime depuis lors dans toutes les interventions que j'ai pu faire. Alors comme conteur ou comme praticien de la narration orale auprès de jeunes enfants, mon premier contrat de travail a été dans une haltegarderie. Mon public avait 18 mois. Et puis, évidemment, toutes les classes après, les médiathèques, les CLSH, les classes Ulysse, des services pédiatriques, pédopsychiatriques, en hôpital, en prison, en musée, bien sûr, en spectacle, seul ou avec des musiciens, jusqu'à 75 musiciens. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai composé aussi pour d'autres, je pense à Clotilde Rulot, l'une des plus belles voix de jazz françaises actuellement. Et puis aussi sur d'autres terrains, j'ai continué à travailler sur le sujet de la santé au travail, suivant l'évolution du sujet avec la notion de santé mentale et les problèmes de harcèlement, de burn-out. Et de toute atteinte à la santé mentale au travail. Toujours préoccupé d'essayer d'être au cœur de la vie toute simple et du réel aussi. Et c'est donc ce qui m'anime aujourd'hui avec la création et l'animation de ce cercle de sages fous et sages femmes de Yem, de questionner quelle forme Yem peut prendre, car Yem peut prendre toutes les formes, et je crois, et j'en suis même sûr, que je n'arriverai jamais tout seul à en faire le tour. Arriverons-nous même à plusieurs à en faire le tour? J'en doute. La puissance de vie qui l'anime est tellement forte. Qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est d'explorer toutes les formes du vivant aussi. Mais savoir la décrire et pouvoir mettre des images sur elle, c'est pouvoir, et j'en reviens et je terminerai par là où j'ai commencé, sur la responsabilité que nous avons de donner la matière sonore nécessaire et suffisante pour que notre auditoire puisse se forger les images contenu à l'intérieur de nos histoires. Et si on ne sait pas se faire des images sur ce qui nous relie, si les uns aux autres, les unes aux autres, quel que soit notre genre, quelle que soit notre religion, nos croyances, notre nationalité, notre culture, c'est le principe d'universalité et d'être au monde. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsque j'étais assis sur le banc à Ghana, tout en pleurs, j'ai complètement reformaté ma carte mère. Et cette expression typiquement informatique n'est pas anecdotique non plus. J'ai reformaté ma carte mère. Pardon. La reliance à la terre mère et à toutes les formes manifester d'être vivant. Alors merci d'avoir accepté mon invitation de faire partie de ce cercle pour créer les images nécessaires pour faire grandir le monde.